vais parler d'histoire immédiate, d'histoire du temps présent, là, sur la période actuelle qui est, qu'on voit qu'il y a une grande instabilité et j'ai l'impression que la question du maintien de l'ordre, là, aujourd'hui, elle se pose avec une acuité particulièrement importante, particulièrement centrale, notamment au regard de ce qui vient de se passer dans les derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Il y a eu un petit peu trois séquences politiques qui se sont télescopées très très rapidement, trois séquences politiques fortement polarisées. Alors ces trois séquences, très rapidement, c'est évidemment la vague d'attentats et ce qui en découle, c'est-à-dire l'avènement de l'antiterrorisme comme mode de gouvernement en France, l'Union nationale, le choc et l'état d'urgence évidemment. Ensuite, la deuxième séquence politique, quasiment quelques mois plus tard, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est une agitation, un mouvement social qui démarre et qui choisit de nouvelles formes dans sa morphologie, dans ses modes d'expression, et avec une reconfiguration des forces du mouvement social qui est en cours aujourd'hui, et avec un mouvement qui dure dans le temps, qui trouve ses propres formes. Et une agitation qui dure jusqu'en septembre dernier, donc avec une forme un peu inédite. Ça fait, de mémoire, je pense que c'est pas arrivé, un mouvement social aussi, disons, vivace, sous un gouvernement de gauche, partant d'état d'urgence. Hein, c'est quand même assez inédit. Et enfin, la troisième séquence, c'est la séquence qui continue aujourd'hui, c'est celle d'un retour à l'ordre, depuis la rentrée, avec le début d'une campagne électorale qui démarre sur des accents ouvertement identitaires, sécuritaires, et surtout la police qui descend dans la rue, la police qui s'émancipe de ses structures syndicales, etc., et qui impose à nouveau dans l'agenda politique ses préoccupations, ses revendications, et notamment l'impunité, encore plus d'impunité policière, et l'assouplissement du permis de tirer. Donc, pourquoi c'est intéressant ces trois séquences-là très 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 rapprochées? C'est qu'à chaque fois, l'acteur central de ces trois séquences, c'est la police. C'est la police, soit parce qu'elle est vue comme un rempart, comme une protection, puis parce qu'elle est vue comme une force antagoniste qui attaque les cortèges avec une médiatisation assez importante des violences policières. Et enfin, la police comme actrice elle-même de la contestation. À chaque fois, la police joue un rôle central. Alors, pour cette introduction sur la question du maintien de l'ordre et la militarisation de la police, ce qu'on peut dire, c'est que on a tous vu, parfois vécu, parfois dans notre chair, la répression policière au printemps dernier. C'est un moment un petit peu épiphanique où le plus grand nombre a pu se rendre compte de la violence d'État, avec, comme je disais, une forte médiatisation et également de nouvelles catégories de population qui sont touchées par la violence policière, notamment des syndicalistes, un syndicaliste qui a perdu un œil en septembre, par exemple. Donc là, il y a cette question de la militarisation et des armes de la police, notamment des balles en caoutchouc, les flashballs et les LBD, les grenades, on en a beaucoup parlé. Mais ce qu'il faut dire en réalité, c'est que ce qu'on a tous vu et vécu au printemps dernier, en réalité, c'est le fruit d'un processus qui a duré une vingtaine d'années, un processus qu'on peut faire démarrer au milieu des années 90, en 94-95. Ce qui se passe au milieu des années 90, c'est que il y a trois événements simultanés. Il y a la création des BAC, hein, des brigades anticriminalité. Mathieu pourra tout à l'heure évoquer la genèse coloniale et postcoloniale de la BAC. Il y a également la distribution en 1995 des premiers flashballs par Claude Guéant, hein, qui n'était pas encore amateur de tableau, mais qui était directeur de la police nationale. Et également en 1995, il y a le lancement du plan Vigipirate, qui était censé être temporaire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on réhabitue les gens à voir dans l'espace public des treillis, des FAMAS, des armes dans l'espace public, dans les gares. Et un plan Vigipirate qui, comme vous le savez, ne sera jamais levé et qui aujourd'hui est même complété par l'état d'urgence. Donc on peut faire démarrer un petit peu cette rapide histoire au milieu des années 90 et ce qui se passe en particulier avec la distribution de ce qu'on appelait à l'époque des fusils flashball par Claude Guéant, qui sont distribués initialement à des corps de police assez spécialisés qui sont... la police chargée du banditisme, de l'antiterrorisme et les brigades anticriminalité. Et les premiers flashballs au milieu des années 90 sont distribués exclusivement pour les quartiers périphériques et en particulier la banlieue parisienne. Assez rapidement, il y a un père de famille, par exemple, dès 1999, qui s'appelle Ali Alexis, qui perd un œil, et dans une indifférence assez générale en réalité. C'est qu'à partir du milieu des années 2000 que la question du flashball va commencer à apparaître dans les médias, quand des manifestants blancs généralement vont commencer à être touchés. Mais on voit que dès les années 90, il y a des personnes qui sont mutilées par ces nouvelles armes. Et ces nouvelles armes qui, comme je le disais, sont distribuées au début dans les banlieues à la police, elles inaugurent un geste qui est nouveau. Elles inaugurent un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on réhabitue la police à tirer sur la foule, à presser sur la détente. Alors que depuis, en gros, mai 68 et encore plus après la mort de Malik Houssekine, c'est la doctrine de repousser la foule, de la contenir. Et là, on a une mutation, et évidemment de ne pas lui tirer de projectiles en tir tendu. Là, on a un tournant. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc, quelques années passent. 2002, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy décide de généraliser l'usage du flashball dans les corps de police en France. Et c'est également à ce moment-là qu'il distribue les fameuses grenades de désencerclement qui sont appelées officiellement des dispositifs manuels de protection. Et donc, dont on entend beaucoup parler. Donc ça, c'est 2002, c'est Nicolas Sarkozy. Et à l'occasion de cette nouvelle, de cette dotation, il dit, il résume bien l'esprit de ces nouvelles armes, de ces armes intermédiaires, entre guillemets, c'est quand la police a un flashball, les voyous ne viennent pas les chercher. C'est-à-dire que le flashball, c'est une arme qui est imposante, c'est une sorte de gros pistolet avec deux canons qui tire en faisant une forte détonation, une explosion, et qui tire une balle en caoutchouc. Donc, et fondamentalement, c'est une arme qui est ostentatoire, qui doit faire peur, qui doit impressionner, y compris quand les policiers font le geste de viser sur une personne. Il y a un nouveau saut qualitatif en 2007, au moment de la présidence donc, de Nicolas Sarkozy, toujours le même, avec l'expérimentation d'une nouvelle arme qui s'appelle le LBD, le lanceur de balles de défense 40 mm. Et c'est une montée en gamme par rapport au flashball, c'est-à-dire que c'est une arme là qui, pour le coup, est réellement un hybride entre le maintien de l'ordre et ce qu'on appelle le maintien de la paix, c'est-à-dire la guerre, avec une arme qui a un cas. Je vais pas faire trop long là sur la fiche technique, mais il y a un saut qualitatif parce que c'est une arme qui a un canon rayé, qui a un viseur électronique, qui a un viseur EOTech, qui est également utilisé par exemple par l'armée américaine et par des corps d'armée. C'est une arme donc qui est classée arme de catégorie A, donc c'est-à-dire arme à feu à usage militaire, et qui tire des projectiles d'un diamètre de 40 mm. Qui est le diamètre standard des balles en caoutchouc de l'OTAN. C'est-à-dire que, je l'ai pas là malheureusement, la balle de LBD, c'est une munition qu'on peut retrouver à la fois à Jérusalem-Est que dans les rues de Ferguson, que à Corbeil-Essonne ces dernières années. C'est exactement le même type de projectile. Alors, ce LBD, il est expérimenté simultanément, secrètement d'abord, dans les banlieues, évidemment. Donc en 2007, à l'automne, il y a deux événements importants. Il y a d'une part un mouvement de révolte à Villiers-le-Bel après la mort de deux adolescents qui sont renversés par la police, une révolte qui est massivement mise en scène par le gouvernement, qui mate la révolte en quadrillant le quartier, en utilisant des hélicoptères, en médiatisant massivement les policiers qui sont blessés. Et simultanément, il y a un mouvement lycéen et étudiant, le premier mouvement social un petit peu conséquent du quinquennat de Nicolas Sarkozy, contre la loi LRU, de privatisation des universités. Et donc, c'est dans le cadre de ce mouvement, par exemple, qu'il y a un policier qui teste son LBD contre une manifestation lycéenne à Nantes. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que je reçois une balle à côté de l'œil qui me fait perdre l'œil droit. Ce qui se passe, c'est que ce saut qualitatif, il s'installe petit à petit. Le gouvernement utilise notamment la révolte de Villiers-le-Bel pour dire qu'il va, il faut s'adapter aux nouvelles menaces, il faut augmenter la puissance de ces armes intermédiaires. Et donc, progressivement, le LBD, le lanceur de balles de défense, remplace le flashball. Et c'est la gauche, quand elle arrive au pouvoir, qui généralise ce LBD et qui fait disparaître le flashball, qui était moins puissant. Donc. Aujourd'hui, le flashball est obsolète. Hein. On parle de flashball dans le vocabulaire courant. Flashball, c'est une marque, c'est comme frigo ou Kleenex, mais ça désigne en réalité une marque précise de Vernet 40. Alors, j'ai brossé très très rapidement là, cette montée en gamme. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les balles en caoutchouc, les grenades, etc., elles s'adressent à tous ou presque, enfin, un très très grand nombre de personnes. Il y a plusieurs milliers de tirs par an en France de balles en caoutchouc, par exemple. Mais avant de s'étendre, il a fallu les tester sur des marges, ce qu'on peut appeler des laboratoires, pour les faire accepter politiquement. Alors, on peut essayer rapidement de décrire ces laboratoires. Donc, il y a évidemment les quartiers périphériques. Les quartiers périphériques des métropoles où ont été testées en amont la plupart des innovations sécuritaires récentes, donc c'est-à-dire les moyens aériens de type drone, hélicoptère. On a vu beaucoup d'hélicoptères au-dessus des manifestations au printemps. Eh bien, ça fait 20 ans qu'il y a des hélicoptères quand il y a des mouvements de révolte en banlieue. Également le quadrillage d'un quartier et également parfois des techniques de NAS qu'on a pu également voir expérimenter sur nos manifestations au printemps. Deuxième type de laboratoire, alors là on peut essayer de trouver un mot, mais c'est un petit peu une catégorie valise, c'est ce qu'on pourrait appeler des luttes radicales ou des agitations incontrôlables, etc. Donc ça c'est une catégorie assez lâche où on peut à la fois retrouver les manifestations lycéennes, par exemple, les manifestations lycéennes qui empruntent d'autres voies que les défilés syndicaux, c'est-à-dire que les manifestations lycéennes ne sont généralement pas déposées en préfecture, ont des parcours spontanés et dérangent généralement beaucoup les gouvernements. Et on a vu que ces dernières années, il y avait plusieurs lycéens qui avaient perdu des yeux en manifestation. Il y a également toutes les luttes qui ont été disqualifiées par les médias, qui sont qualifiées d'ultra-gauche, hein, avec une diabolisation et des opérations comme l'affaire Tarnac. Et parmi ces luttes radicales, évidemment, il y a les luttes des territoires, et en particulier les ZAD. Les ZAD, et c'est notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, qui a été un laboratoire, un immense laboratoire, notamment en 2012, avec la fameuse opération César, de tentative d'expulsion de la ZAD, où il y a eu une utilisation massive de l'arsenal policier à ce moment-là. Et évidemment, la ZAD de Sivens, où Rémi Fraisse a trouvé la mort. Troisième laboratoire un petit peu qu'on peut décrire, c'est le monde sportif, et en particulier le monde du foot marchand, le monde du stade. On sait que les stades sont des arènes sécuritaires qui ont des dispositifs panoptiques de surveillance avec des caméras qui filment l'ensemble des supporters. Mais ce laboratoire a quelque chose d'intéressant, c'est également que il y a un dispositif qui s'appelle les interdictions de stade, les IDS, qui existe depuis les années 90, qui touche les supporters qualifiés d'ultra, c'est-à-dire que les supporters qui ont été repérés, fichés, etc., doivent pointer au commissariat les soirs de match, ou les soirs où leur équipe joue. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que peu avant le mouvement contre la loi travail, il y avait des syndicats de policiers qui disaient si on peut le faire sur des supporters, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur des militants radicaux? Et c'est justement ce qui s'est passé grâce à l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a eu des interdictions administratives de manifester, et on voit qu'il y a eu une extension. Donc encore une fois, il y a eu un laboratoire qui a permis de tester ces techniques. Et toujours dans le domaine du sport marchand, il y a cette invention assez extraordinaire de la fan zone qu'on a pu voir cet été, qui est une militarisation pure et simple d'un morceau d'espace public, où tout le monde est fouillé pour rentrer sur la zone, fortement sécurisé, et l'espace public est privatisé uniquement pour la consommation et le spectacle. Et évidemment, parmi ces supporters, il y a également, au fil de mes recherches, j'ai rencontré plusieurs supporters qui avaient également été gravement blessés par les balles en caoutchouc. Dernier laboratoire, un petit peu qu'on peut essayer de serrer, il y a la question des frontières. Donc vous avez tous vu l'expulsion de Calais, où il y a eu également un déploiement policier très fort, avec encore une fois une mise en scène médiatique, mais il y a également l'utilisation des armes intermédiaires aux frontières, donc que ce soit dans le sud de l'Espagne, à Lampedusa ou en Grèce, avec également des dispositifs de contrôle des corps, avec reconnaissance biométrique, traçage des exilés, etc. Et donc encore une fois, on voit qu'ici, sur ces marges de l'Europe, il y a à nouveau une expérimentation des stratégies de répression et de contrôle. Donc au terme de ces 20 ans d'expérimentation sur les marges, entre guillemets, on peut dire que ces armes, elles s'adressent à tous. Par exemple, il y a l'exemple d'une infirmière grenobloise qui a perdu un œil après l'élection de Nicolas Sarkozy parce qu'elle passait aux abords d'une manifestation. Également un pompier à Grenoble aussi qui a perdu un œil. Un journaliste indépendant qui a été gravement blessé pendant la loi travail, ce qui n'a pas suscité plus d'émotion que ça. Pourtant, on aurait pu se dire qu'un journaliste indépendant gravement blessé en manifestation allait provoquer un séisme politique, mais aujourd'hui on a changé d'époque à partir de ces expérimentations. Donc cette séquence de 20 ans, on peut l'arrêter en 2014 avec la mort de Rémi Fraisse. Pourquoi ? Parce que depuis 1986 et jusqu'en 2014, donc, le maintien de l'ordre français est marqué par une peur, c'est celle de faire un mort en manifestation. Qu'est-ce qui se passe en 1986 ? Donc, il y a un mouvement social étudiant contre la loi Devaquet. Il y a à l'époque des compagnies de police qui s'appellent les voltigeurs, qui sont des policiers à moto avec des matraques. Et Malik Oussekine passe aux abords d'une fin de manifestation, il est tabassé à mort. Et ce qui se passe dans les jours qui suivent, c'est qu'il y a un véritable séisme politique, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue. L'ensemble de la gauche institutionnelle soutient les manifestations. Le ministre démissionne, le ministre Devaquet. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui sermonne fermement les policiers. Et il y a la dissolution des brigades de voltigeurs. Et à l'époque, c'est un gouvernement de droite dure, hein, c'est Pasqua. 2014, c'est à peu près l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on est avec un gouvernement de gauche, pourtant c'est un manifestant blanc qui meurt sur une lutte écologiste, un manifestant non violent, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a eu une hégémonie culturelle qui s'est inversée en 30 ans. Ce qui se passe, c'est que la gauche institutionnelle, au mieux, opère un silence gêné. Au pire, se désolidarise ouvertement des rares manifestations qui protestent contre les violences policières. Et il y a une répression féroce et systématique des manifestants qui protestent après la mort de Rémi Fraisse. Donc on voit que là, il y a un tournant, et ce tournant, en fait, on a pu le constater l'an dernier, du coup, au printemps. Parce qu'on voit qu'on a un gouvernement qui n'a plus peur de frapper les chairs, y compris quand il y a un mouvement social assez conséquent, et on a un gouvernement qui ne tremble plus à l'idée de potentiellement mutiler ou tuer en manifestation. Quelques mois plus tard, la fenêtre de protestation suite à la mort de Rémi Fraisse, qui était des protestations qui étaient déjà fragiles, elle se referme. Il y a les attentats, puis suivi de l'état d'urgence, l'Union nationale. Une sorte d'onde de choc avec le vote de l'état d'urgence voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. On n'a pas vu une telle unanimité à l'Assemblée nationale depuis 1914. Même pendant la guerre d'Algérie, l'état d'urgence n'avait pas été voté aussi massivement. Il faut remonter à l'Union sacrée de 1914 et la guerre contre l'Allemagne pour trouver un tel unanimisme. Et ce qu'on peut dire, c'est que maintenant que cette page s'est tournée, on a l'ouverture d'une nouvelle séquence avec un renforcement, une pérennisation de cette militarisation. Et l'illustration de cette nouvelle séquence, c'est ce qui s'est passé cet été, l'été dernier, en 2016, à Beaumont-sur-Oise, après la mort d'Adama Traoré, avec une image qui est très importante. C'est au moment de la révolte à Beaumont-sur-Oise, les gendarmes qui sont envoyés pour réprimer les émeutiers disposent donc de lanceurs de balles de défense, mais également de fusils d'assaut HKG-36 qui ont été fournis dans le cadre de l'état d'urgence. Et donc là, on voit que la boucle est bouclée. On a généralisé petit à petit les balles en caoutchouc, et aujourd'hui, il est plus exclu d'avoir une arme à feu pour du maintien de l'ordre. Alors, assez rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que, en parallèle de ce processus, c'est un marché qui s'est ouvert. L'arsenal policier, c'est un marché. Il y a une dimension économique très importante et dont la France exporte le savoir-faire, comme disait Alio Marie en 2011 à propos de l'insurrection en Tunisie. Et donc la France n'exporte pas uniquement des armes de guerre, même si on sait que là, il y a eu un storytelling assez bluffant pendant tout le quinquennat Hollande de ministres qui allaient vendre des rafales, etc., aux Émirats et à divers régimes autour du monde. Mais il y a également une exportation massive d'armes de maintien de l'ordre. Et par exemple, on a un petit peu enquêté sur les usines qui fabriquent les grenades lacrymogènes et les balles en caoutchouc en France. Et il y a par exemple une entreprise qui s'appelle Nobel Sport, Nobel, donc l'inventeur de la dynamite, qui se situe dans le Finistère. Et ce qu'on a découvert, c'est que 80% de cette production partait à l'export, et notamment dans les pays du Golfe, en Amérique latine et en Afrique du Nord. Et donc on voit que la production française s'exporte massivement et sert assez peu finalement au marché intérieur. Et y a un enjeu d'exportation qui s'incarne également par toute une série de salons qui exposent les innovations en termes de maintien de l'ordre, et notamment le salon Milipol qui se tient tous les 2 ans à Paris, où on peut voir parader des envoyés de différents régimes qui viennent voir les innovations en termes de drones, en termes de balles en caoutchouc, en termes de toutes les nouveautés de reconnaissance biométrique, etc. Si ces armes ont pu s'imposer aussi rapidement et si la militarisation est en train de s'accélérer, c'est parce que il y a eu une défaite culturelle, c'est-à-dire que l'hégémonie culturelle sécuritaire s'est imposée, comme je le disais tout à l'heure, et notamment elle s'est imposée dans le domaine lexical. Moi, j'ai participé à la commission d'enquête parlementaire justement qui a suivi la mort de Rémi Fraisse, et l'immense majorité des invités, des personnes auditionnées étaient des gendarmes, des policiers, des commissaires, etc. Et c'était assez intéressant de noter le lexique qui était utilisé. C'était un lexique qui était systématiquement militaire, c'est-à-dire que les commandants de gendarmerie parlaient d'adversaires, de cibles à neutraliser. Hein, donc c'est assez clair, ça montre un petit peu la vision du monde de la hiérarchie policière en France. Mais également les traditionnels casseurs, guérillas. On a vu également la CGT être assimilée à du terrorisme par un ministre socialiste il y a quelques mois. On voit que là, il y a une colonisation de l'imaginaire par le lexique et la pensée sécuritaire. Et également, ça s'incarne dans toutes les terminologies technocratiques utilisées pour désigner ces armes, pour les euphémiser. Ne serait-ce que lanceur de balles de défense pour désigner une arme qui tire une balle en caoutchouc, comment une arme à feu pourrait être défensive, ça n'a absolument aucun sens. Ou également les grenades de désencerclement qui sont généralement utilisées sur des manifestations déjà encerclées par la police, c'est un curieux paradoxe, et il s'agit justement d'euphémiser ces armes-là et de faire croire que finalement ce ne serait pas réellement des armes. Et donc ce qu'on voit petit à petit, pour revenir à la commission d'enquête parlementaire, c'est que, contrairement à 86 et à la commission d'enquête parlementaire qui avait suivi la mort de Malik Houssekine, en 2015, après la mort de Rémi Fraisse, la conclusion de l'enquête parlementaire, c'est qu'il faut donner plus de matériel à la police, généraliser le LBD et pouvoir arrêter préventivement les personnes qualifiées d'ultra. Donc on voit qu'on est rentré dans une ère où ce n'est plus la police qui s'adapte à la loi, mais la loi qui s'adapte à la police, et c'est même la police qui écrit la loi, comme on l'a vu dans le cadre de l'état d'urgence, avec des prérogatives renforcées pour les services de renseignement. Donc toute cette hégémonie culturelle, on va la voir à l'œuvre, et on la voit à l'œuvre en ce moment avec la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il n'y aura sans doute pas un seul candidat à la présidentielle qui osera remettre en cause les prérogatives policières, et encore moins partant d'état d'urgence. Alors une fois qu'on a un petit peu dressé ce tableau là très très rapidement à gros traits, il y a facilement une inclination à se dire qu'il s'agit d'un rouleau compresseur protéiforme qui touche à la fois le domaine technique, idéologique, culturel, économique. Mais ce qu'on peut au contraire faire, et pour peut-être lancer un petit peu la discussion, c'est réfléchir à des pistes pour résister ou pour endiguer ce processus. Alors, il y a un très vaste répertoire d'actions à mobiliser. Là, je donne 2 ou 3 pistes, et puis il ne faut pas hésiter à intervenir derrière. Donc la première piste et qui a été intéressante justement lors du mouvement du printemps dernier, c'est que le gouvernement socialiste a utilisé à peu près l'ensemble de l'arsenal qui était à sa disposition, et pas seulement l'arsenal en termes d'armes de maintien de l'ordre, mais également l'arsenal médiatique avec des opérations extrêmement bien ficelées sur l'hôpital Necker, sur la voiture de policiers incendiés. Il a mobilisé aussi des nouvelles qualifications judiciaires avec des militants mis en prison pour tentative d'homicide sur un policier, qui encore une fois font écho à l'emprisonnement de plusieurs personnes à Villiers-le-Bel sur dénonciation anonyme, hein, c'était en 2007. On voit que aujourd'hui ça s'applique également aux militants. Donc l'agitation contre la loi travail a donné toute une série de pistes, avec évidemment des pratiques qui se sont largement étendues de protection mutuelle, d'attention collective et de médics, ce qu'on appelle des médics, donc de soins autonomes pour les manifestants. Et donc on voit que là il y a une nouvelle génération qui s'est sensibilisée à ces questions de militarisation et qui a trouvé des pistes et qui ne s'est pas laissé intimider, alors que le gouvernement avait mobilisé un arsenal extrêmement vaste pour empêcher la contestation. Deuxième piste, mettre en lumière les infrastructures qui produisent les armes du maintien de l'ordre. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des grandes usines, il y en a plusieurs en France, mais il y a quasiment dans chaque département en France des manufactures, des entreprises qui fabriquent du matériel pour la police. Et donc les personnes qui se mobilisent contre les violences d'État peuvent mettre en lumière ces infrastructures et également essayer de les bloquer. Ce qui s'est passé un an après la mort de Rémi Fraisse, par exemple, c'est une manifestation aux abords de l'usine Nobel Sport dont je vous parlais. C'est des usines qui sont classées Céveso. Il suffit simplement de manifester ou de camper à côté de l'usine pour stopper la production. Et en termes également de combat anti-impérialiste et internationaliste, c'est aussi intéressant. Par exemple, en cas d'insurrection dans un pays qui achète des armes à la France, bloquer ces usines-là, ça représente un enjeu concret et atteignable. Et enfin, troisième piste dont je voulais vous parler, c'est la constitution d'assemblées de blessés par la police qui essayent de mettre en commun, de monopoliser des ressources collectives pour s'organiser sur différents niveaux face aux violences d'État, donc à la fois mobiliser une expertise, c'est-à-dire comprendre ce que sont ces armes, les mettre en lumière, les dénoncer, mais également échanger des conseils d'ordre intime, médicaux, juridiques, etc. pour faire face et pour rompre l'atomisation, puisque ce que j'ai essayé de vous faire comprendre au fil de ce développement, c'est que le changement de doctrine de la police se manifeste par une individualisation de la violence. On ne s'adresse plus à un corps collectif, mais à des individus. On concentre la violence sur la chair d'une personne. Et donc fondamentalement, il s'agit d'isoler les personnes qui sont blessées tout en faisant peur à toutes les autres. Donc ce qu'on peut dire, c'est, on peut reprendre un petit peu la phrase de Sun Tzu, en blesser un pour en terroriser mille. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc justement, la constitution d'assemblée de blessés vise à empêcher cette atomisation, cet isolement des personnes ciblées par la répression. Et j'en finirai par une citation justement de Nicolas Sarkozy, hein, encore lui. Je me répète, mais au moment du CPE, de la lutte contre le CPE en 2006, c'était quelques mois après le grand mouvement de révolte de novembre 2005 dans les quartiers, et Nicolas Sarkozy disait s'il y avait une convergence entre la jeunesse des quartiers et les étudiants qui manifestent aujourd'hui, ce serait catastrophique et on passerait à une fin de quinquennat épouvantable. Malheureusement, ça s'est pas passé à l'époque, mais quelque part, cette citation, en fait, ça devrait un petit peu être notre programme. C'est-à-dire travailler avec les différentes cibles de la violence d'État, ça permet justement d'opérer ces rencontres et ces complicités et de résister à ce rouleau compresseur sécuritaire.
Merci beaucoup.
Merci.